Gaza. On vient de sortir de l'exposition à l'Institut du monde arabe sur les trésors de Gaza. Et tout à fait, on est touché. Et c'est en défense des opprimés que je me place. Merci, monsieur.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Zoom Zoom Zen, 2 heures chaque après-midi pour décrypter notre époque à travers ces mots sans jamais oublier d'en rire. Ça, c'est le cahier des charges, hein. Mais entre la théorie et la pratique, il y a un monde qu'on va expérimenter cet après-midi, puisqu'effectivement, l'actu était ces derniers temps assez lourde, voire anxiogène. Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef, s'est dit qu'il était temps de se dérider un peu avec un sujet feel-good aujourd'hui, Zoom sur Gaza. Oui, il y a des jours où dans une émission sur le gai savoir, la gaieté doit savoir céder la place au savoir. Désolé pour ceux d'entre vous qui venaient chercher plutôt la déconne cet après-midi. Il s'agit clairement pour vous d'un ascenseur émotionnel comme jusqu'alors seul Quentin, lui, nous y avait habitué dans ses micro-trottoirs. Cette faculté à basculer de la bonne humeur à la gênance, de la joie de vivre à l'embarras en une fraction de seconde, comme hier.
Bernard, vous avez quel âge ?
76 ans.
Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie ? Vous êtes retraité, j'imagine ?
Non.
Non, pas du tout.
À 76 ans. C'est
vrai. Vu ta gueule, Bernard, c'est quand même plus proche de l'EHPAD que de la promotion, hein.
Ce qui n'était pas faux.
Bref, passé la stupeur de se retrouver à parler de Gaza dans une émission normalement rieuse, on va effectivement dézoomer cet après-midi, les amis, car pour comprendre ce qui se joue là-bas, il faut connaître l'histoire de Gaza, une histoire complexe, tragique, qui ne débouchera certainement pas sur le Zoom Zoom Test le plus drôle de l'année, mais il faut parfois faire des concessions au rire. Ainsi va la géopolitique.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Vincent Lemire.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Vincent, vous êtes historien, spécialiste de l'histoire du conflit israélo-palestinien. Vous avez coécrit Israël-Palestine, anatomie d'un conflit avec l'ami Thomas Negaroff, sorti l'an dernier aux éditions des Arènes. Et le monde entier vous a connu avec votre bande dessinée Histoire de Jérusalem, sortie aussi aux Arènes. Plus de 350 000 exemplaires vendus, traduits en 10 langues. C'est ce qu'on appelle un best-seller. Ensemble, on va donc rembobiner l'histoire de Gaza. Juste le temps de vous présenter mes fidèles collègues, à commencer par celui qui s'est évidemment rendu à Gaza pour son micro-trottoir. Comment ça s'est passé, Quentin ?
C'est pas drôle, je peux pas y aller.
Mais non, vous n'avez
plus d'argent.
Mais non, il n'y a plus rien.
Mais non, c'est vrai.
Alors,
vous avez tout pris avec votre congé paternité.
Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous êtes rendu dans la rue ? Vous êtes allé où ?
Je suis allé devant l'Institut du monde arabe, dans le 5e arrondissement de Paris. Il y a sur place l'expo Trésors sauvés de Gaza, 5000 ans d'histoire. J'ai croisé des jeunes, des moins jeunes, des gens qui sortaient de l'expo, qui s'y rendaient, des engagés. Si je vous fais lire Gaza, vous me dites quoi ? Vos réponses avant 16h30.
À vos côtés, Vincent Lemire, quand elle ne regarde pas des vidéos dégueulasses sur Pornhub, elle s'intéresse elle aussi à la marche du monde. Mais bien sûr, vous ne connaissez que lui. Manon Mariani, chaque après-midi, vous nous présentez l'autre personne à suivre sur notre sujet du jour.
Oui, un correspondant de guerre qui vit à Gaza et qui est devenu une source d'information essentielle pour les journalistes du monde entier.
Vers 16h30, on atteindra probablement l'apogée du fun dans cette émission avec un quiz spécial Gaza. Tous les fun facts sur cette destination hors des sentiers battus, dirait le Lonely Planet. Juste avant 17h, on sera rejoint par Tania Dutel, celle de nos 17 humoristes qui a donc eu la chance de tomber sur le sujet Gaza. On l'embrasse d'avance. Mais d'abord, Vincent Lemire, avant de nous replonger dans son histoire, dans sa géographie aussi, pourquoi Gaza est devenu un symbole, un signe de ralliement dans le monde entier finalement ?
Eh bien, pour vous répondre, j'ai envie de citer quelques phrases d'un journaliste qui a été beaucoup à Gaza, qui s'appelle Guillaume Lavallée, qui a dirigé le bureau de l'AFP ces dernières années, et qui donc avait aussi des journalistes sur place. Si Quentin n'a pas pu aller à Gaza, hein, évidemment, c'est aussi parce qu'aucun journaliste ne peut y aller. Peut entrer à Gaza, hein, on le redira. Et Guillaume Lavallée a écrit un très beau texte qui est publié pour l'instant au Canada, mais qui est disponible aussi en France, qui s'appelle « Gaza avant le 7 ». Qui est un peu en fait notre sujet. Il ne peut pas être là parce qu'il habite à Montréal, mais il écrit « De quoi Gaza est-elle vraiment le nom ?» Il fait plein d'hypothèses, et puis il termine par « Peut-être le simple symbole de nos échecs ». Et je pense qu'on est là, donc voilà, je ne réchauffe pas l'atmosphère comme ça, mais « De quoi Gaza est-elle le nom ?» En fait, c'est un peu ça c'est un nom très court, 4 lettres, qui claquent, qu'on a tous en tête, une prison à ciel ouvert, comme le veut le lieu commun, un repère de terroristes, un no man's land juridique, un laboratoire où l'armée israélienne teste ses armes et ses technologies de contrôle, un État palestinien atrophié, un purgatoire, un concentré de la souffrance d'un peuple éparpillé, un réservoir à désespoir, ou donc le simple symbole de nos échecs. C'est un peu tout ça à la fois.
Lui, il a connu Rafah quand la bande de Gaza était encore une colonie britannique. C'était tenu à l'époque. Les Rosbifs, on dira ce qu'on voudra, ils ont des chicots pourris, mais ils savent faire régner l'ordre. Voici pour l'analyse géopolitique de Cyril Lacarrière, mais dans son petit billet introductif, heureusement, pas d'analyse, les faits. Rien que les faits, Cyril, dites-nous, Gaza, d'où ça sort?
Aussi une analyse bucco-dentaire. Que de batailles pour une bande de terre d'un peu plus de 300 km², et elle remonte à loin, ces batailles. Dès l'Antiquité, les Égyptiens, Philistins, Romains, Ottomans ont successivement contrôlé la bande de Gaza. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que Gaza était un carrefour pour les échanges commerciaux dans la Méditerranée. Contrôler Gaza, c'était contrôler le trafic maritime. Vous comprenez que ça aiguise les appétits. D'ailleurs, les Anglais ne s'y sont pas trompés. Gaza passe sous pavillon britannique à partir de 1917 dans le cadre du mandat britannique pour la Palestine. Une histoire qui va durer plus de 30 ans. Et après, retour des Égyptiens.
Et à quel moment ça ?
Eh bien, en 1948, année de création de l'État d'Israël, Gaza est occupé par l'Égypte, alors que des millions de réfugiés palestiniens viennent s'y installer pour fuir la guerre israélo-arabe. Et puis ça passe aux mains d'Israël, et ce n'est qu'en 1993, grâce aux accords d'Oslo, que le contrôle de Gaza est finalement confié à l'autorité palestinienne, dirigée à ce moment-là par un certain Yasser Arafat. Pour autant, les problèmes persistent, voire s'aggravent, et c'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Vincent Lemire, juridiquement déjà, la bande de Gaza, c'est quoi aujourd'hui ? C'est un État indépendant ? C'est une région des territoires palestiniens ? C'est quoi ?
Ouais, c'est la meilleure question pour commencer. Juridiquement, c'est rien. C'est pas un État, c'est même pas un proto-État. C'est même plus la partie d'un proto-État, puisque c'est un territoire qui échappe à l'autorité palestinienne, qui est donc, on va dire, le proto-État palestinien. C'est un lieu où, effectivement, vivent énormément de Palestiniens qui ont un statut particulier, qui est le statut de réfugié. Hein, et c'est pour ça que le rôle de l'UNRWA est extrêmement important, parce que le rôle de l'UNRWA, il est à la fois de défendre ce statut, de représenter...
Rappelons ce qu'est l'UNRWA en deux mots.
L'UNRWA, c'est une agence de l'ONU qui a été créée spécialement après la Deuxième Guerre mondiale pour s'occuper en particulier des réfugiés palestiniens. Pourquoi les gens qui nous écoutent se disent « Mais pourquoi est-ce que l'ONU a créé une agence juste pour ces réfugiés ?» Il y en a plein des réfugiés. Pourquoi ? Parce qu'elle se considère un peu responsable du problème, si vous voulez. C'est-à-dire qu'elle n'a pas réussi, elle a confié un mandat aux Britanniques et qui ont magistralement foiré. Les Britanniques ont rendu leur mandat aux Nations Unies, les Nations Unies ont fait un plan de partage, deux, ils ont voté, etc. Ça fait une guerre civile, des réfugiés. Donc, la communauté internationale, les Nations Unies, se considèrent, et de mon point de vue, à bon droit, comme responsable du problème, d'où cette agence spéciale des Nations Unies, qui donc a un rôle tout à fait particulier à Gaza.
On parlait de la définition juridique de ce qu'est aujourd'hui la bande de Gaza. C'est important de revenir sur le fait aussi, parce que si on regarde ça de loin, on ne le sait pas forcément, on associe toujours ce qui se passe là-bas avec ce que fait le Hamas. C'est le Hamas qui dirige de facto la bande de Gaza. Le Hamas qui a été élu en 2007.
Alors, le Hamas a été élu tout à fait à la régulière en 2006. Il a remporté... les élections législatives de 2006 où il y avait plein de participants, plein d'observateurs internationaux, plein de bureaux électoraux partout, etc. Il les a remportés très largement dans la bande de Gaza, dans certaines parties de la Cisjordanie, tellement il les a tellement remportés qu'un certain Ismaël Haniyeh a été nommé Premier ministre par Mahmoud Abbas. Vous voyez, ça, voilà, quand on remporte des législatives, on est nommé par le président, même si on n'est pas complètement d'accord avec lui. Et ce qui s'est passé, c'est que la communauté internationale, en fait, sous la pression de Mahmoud Abbas, a en fait considéré qu'on ne pouvait pas collaborer avec un parti qui avait... certes une branche politique, mais aussi une branche militaire, dont le cœur de métier est quand même le terrorisme. Donc, à ce moment-là, Ismaël Haniyeh a été cornérisé, il n'a pas pu, en fait, exercer son mandat, et là, on est arrivé à cette mini-guerre civile à Gaza, qui a eu 150 morts en 2007, et le Hamas a pris le pouvoir.
Et ensuite, plus d'élections.
Et ensuite, plus d'élections. Au printemps 2021, il devait y avoir des élections. Elles auraient d'ailleurs été... ça aurait été un moment hyper important, parce que tous les sondages indiquaient que le Hamas allait perdre les élections à Gaza. Il allait plutôt les remporter en Cisjordanie. Mais au printemps 2021, Mahmoud Abbas a suspendu le processus électoral au prétexte, pas complètement, mais au prétexte qu'on ne pouvait pas voter à Jérusalem, que les Palestiniens ne pouvaient pas voter à Jérusalem, donc il a tout annulé.
Donc il n'y a pas une personne aujourd'hui à la tête du pays ?
Alors, du pays ou de
Gaza ? De Gaza, pardon.
Alors, de Gaza, il y avait Yahya Sinwar, hein, qui était le chef incontesté, charismatique, et aujourd'hui, c'est plutôt son frère, on va dire, Mohamed Sinwar, qui est le dirigeant de facto du Hamas à Gaza, mais qui n'a pas le charisme qu'avait Yahya Sinwar.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
C'est quoi Gaza, cette bande de terre à feu et à sang? On en entend parler tous les jours, mais aujourd'hui dans Zoom Zoom, on a décidé de dézoomer avec un expert de la région, Vincent Lemire. Vincent, quand on n'est jamais allé sur place, on a forcément une image un peu biaisée de la bande de Gaza, un territoire pauvre, enclavé, c'est un mot qui revient beaucoup, aujourd'hui totalement détruit. À quoi ressemblait la vie à Gaza avant le 7 octobre 2023?
Alors moi, la dernière fois que j'étais à Gaza, c'était en juin 2023, pour organiser un colloque dans des universités, dans des centres culturels, etc. Je l'ai dit souvent, mais tous les gens qui entraient à Gaza à l'époque disent la même chose. C'était un lieu d'une énergie folle et d'une intensité absolue. Rien que en vous en parlant, il y a peu d'endroits où j'ai
Qu'est-ce
eu...
Qu'est-ce qu'on ressent là-bas?
Mais une écoute... En fait, on va prendre, quand on dit prison à ciel ouvert, bah c'est un petit peu comme quand vous êtes visiteur de prison ou enseignant en prison. Ou ça, oui, vous avez une valeur particulière, on va dire, par rapport aux gens que vous venez voir. D'abord, parce que vous venez de l'extérieur, vous allez ressortir. Il y a cette espèce, vous êtes comme un espèce de petite bulle d'oxygène, quoi, dans un quotidien qui est effectivement carcéral. C'est difficile, en fait. Enfin, je crois que c'est impossible, en fait, pour nous quatre, là, de se dire comment on serait si, depuis 40 ans, 50 ans, on avait vécu dans une bande de terre, alors effectivement, qui fait aujourd'hui 40 km de long, 10 km de large. On organise des marathons à Gaza. On organisait, hein, parce que ça fait pile... voilà, quand on va tout droit, ça fait le marathon.
Qui a dessiné ce rectangle-là?
Alors voilà, aujourd'hui, donc, ça fait 365 km². Par exemple, dans le plan de partage de 1947, la bande de Gaza était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large. Pour que les gens se rendent compte, elle venait toucher à l'angle la Cisjordanie. Vous voyez, donc cette région, elle a toujours été considérée comme le cœur de l'identité palestinienne, même si aujourd'hui elle est effectivement extraordinairement rétrécie.
Mais c'est le cœur de l'identité palestinienne ou c'est plutôt un carrefour? J'ai l'impression qu'il y a eu quand même beaucoup de brassage à ces endroits. C'est une zone de contact, la bande de Gaza.
Alors absolument. C'est-à-dire, on va dire que Gaza est définitivement palestinien, ancré, relié administrativement, y compris à Jérusalem et à Damas, donc on va dire à cet espace israélo-palestinien, syro-palestinien, depuis la fin du Moyen-Âge. Mais avant, effectivement, il n'y a qu'à regarder une carte, en fait. Gaza, c'est un carrefour entre, d'un côté, la route littorale. Donc, si on veut rejoindre le plateau anatolien et l'Afrique, il faut passer par là. Si on veut rejoindre tous les empires mésopotamiens et les empires égyptiens, il faut passer par là. Donc, c'est à la fois un carrefour et un verrou. Et puis, c'est aussi... Donc, ça, c'est l'axe, on va dire, nord-sud, littoral. Et puis, il y a l'axe est-ouest. C'est le débouché de toutes les routes caravanières, depuis les Nabatéens jusqu'aux Bédouins qui font encore un peu de trafic aujourd'hui ou qui en faisaient il y a encore quelques mois, vers la mer. Donc vous voyez, c'est un carrefour un peu en T, comme ça. Et c'est ça qui a toujours fait la richesse de cette région. C'est aussi un oasis avec une nappe phréatique tout à fait extrêmement importante. Et puis il y a le Wadi Gaza, hein, qui est assez un cours d'eau, en fait, relativement bien arrosé. Donc, dans les descriptions des voyageurs, jusqu'aux années 1950,
c'était une sorte
Gaza, c'est un oasis, c'est un paradis, c'est le jardin d'Éden.
Il y a un aspect historique que vous soulevez, c'est que le terme de Palestine vient de Gaza. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer?
Oui, alors ça, c'est en fait via les Philistins. Alors, les Philistins, on est aux alentours du 12e, 11e siècle avant, pardon, on est vers 1200 ans avant notre ère. Et les Philistins, qui sont ce qu'on appelle les peuples de la mer, mais ça veut juste dire qu'on ne sait pas trop d'où ils viennent, peut-être de Chypre, peut-être un peu plus de Grèce, enfin bon, s'installent dans cette région et se définissent comme des Philistins qui sont ennemis, des Hébreux. Voilà. Et ça va donner lieu à des batailles super connues, notamment un certain David contre Goliath.
Ah oui.
Ça se passe peut-être à Gaza, en tout cas c'est entre un Hébreu et un Philistin. C'est l'Hébreu qui gagne, hein, David, par la ruse. Voilà, Gaza, ça a toujours été un lieu hyper identifié et toujours été un lieu qui a, pour le coup, complètement résister à la judaïsation culturelle de cette région. C'est-à-dire, il n'y a pas de moment où Gaza est un lieu qui est intégré au royaume d'Israël ou aux différents royaumes juifs de l'époque.
Un tout petit mot sur le patrimoine. Il y a une expo qui vient d'ouvrir à l'Institut du Monde Arabe, on va en parler tout à l'heure, consacrée au trésor de Gaza. Plus de 130 chefs-d'œuvre de toutes les époques qui sont présentés. Là encore, on n'a pas d'image, nous, du patrimoine de Gaza. Et c'est quoi le patrimoine de Gaza?
Alors, le patrimoine de Gaza, il est richissime, mais il faut d'abord dire que cette expo à Lima, elle peut exister parce que, par miracle, il y a quelques objets qui avaient été exposés dans une expo à Genève au moment du 7 octobre, et donc ils ne sont pas retournés à Gaza. Et donc, c'est pour ça que on encourage tous les gens qui nous écoutent à aller voir cette expo, parce qu'en fait, ils ont des espèces de reliques de des choses qui étaient sorties de Gaza pour l'expo à Genève, est arrivé le 7 octobre. Bon, bah, les conservateurs se sont dit, tiens, on ne va pas faire revenir les tessons attiques pour l'instant. Et donc, voilà, il y a une espèce d'opportunité. Mais effectivement, on voit de la vaisselle grecque, on voit des choses plutôt mésopotamiennes, on voit beaucoup de choses égyptiennes. À Gaza, il y a des mosaïques, il y a un paysan qui au printemps 2022, c'est pas long, hein. Il piochait son champ d'olivier, et il a trouvé une mosaïque absolument dingue qui fait 4 mètres sur 13 mètres, la mosaïque Al-Bourraj.
Oui, c'est de la belle mosaïque.
Qui est une mosaïque byzantine avec une soixantaine d'animaux représentés. Il faut dire que Gaza, aujourd'hui, c'est une telle densité urbaine qu'on fouille très peu, mais ça veut dire aussi qu'il reste énormément
à découvrir.
Voilà.
Une fois de plus, malheureusement, il s'est défilé. Comme un lâche. Celui qui n'est pourtant jamais le dernier à fanfaronner, lançant à ses collègues de la cellule investigation de Radio France.
S'il y a de la bonne radio à faire, on sera là.
Oui, on sera là, mais pas à Gaza. Alors qu'il était allé à Marseille pour parler corruption. Quentin, c'est donc piteusement dans les rues de Paris que vous êtes allé interroger les passants de Gaza, mais pas tout à fait, simplement dans les rues de Paris.
Et non, je suis sur le parvis de l'Institut du Monde Arabe. Le soleil tape sur l'architecture particulière de ce bâtiment qui se trouve dans le 5e arrondissement de Paris, dont l'exposition Trésors sauvés de Gaza, 5000 ans d'histoire vient d'ouvrir. Et cet homme sort du bâtiment justement.
Bonjour monsieur,
quel est votre prénom ?
Kellen Mouinoudine.
Vous avez quel âge ?
J'ai 27 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis artiste peintre. Je vis à New York.
Je lui demande ce que lui évoque pour lui notre mot du jour.
Gaza. De la mer à la rivière, la Palestine sera libérée.
C'est quoi ?
C'est un slogan de la résistance palestinienne. On vient de sortir de l'exposition à l'Institut du Monde Arabe sur les trésors de Gaza, et tout à fait, on est touché, et c'est en défense des opprimés que je me place. Merci, monsieur.
À cet instant, je repère cet homme, en tunique blanche, chapeau noir et lunettes écaillées. C'est un homme de foi, je le vois, il prend une photo de l'affiche de l'expo avec son téléphone.
Bonjour, je m'appelle Olivier Thomas Venard, je suis frère dominicain habituellement à Jérusalem, à l'École biblique et archéologique française de Jérusalem, d'où viennent les objets. Enfin, les objets viennent de Gaza, mais ce sont nos frères archéologues qui ont fait les fouilles qui ont permis de sauver ces objets. J'arrive à l'Institut du Monde Arabe pour parler de mon livre que Grasset vient de faire paraître, qui s'appelle « Il nous reste la foi », où j'essaye de parler de la situation actuelle à Jérusalem.
Lui qui était au micro de Léa Salamé hier matin, que je croise complètement par hasard, profite donc de son passage à Paris. Je lui demande de lire ce mot.
Gaza.
C'est pas un mot anodin, Gaza.
Ça n'est pas un mot anodin, c'est un mot qui est actuellement synonyme de plein de tragédies, d'une violence homicide déchaînée de tous côtés. C'est le souvenir du 7 octobre avec l'horreur dans l'horreur de massacreurs qui se vantent en direct de leur massacre. Et depuis, c'est la mémoire de tant de milliers de victimes et en particulier de tant de milliers d'enfants tués sous des bombes, alors que les enfants, par définition, ne peuvent pas être des victimes collatérales selon le droit de la guerre. Je ne parle même pas du droit humanitaire.
Je salue frère Olivier et je fais la connaissance d'Anissa, étudiante en droit, sous sa casquette noire et sa veste couleur vert pastel. Je lui demande de me dire ce que lui inspire...
Gaza. Génocide. Indifférence du monde, cruauté, injustice. Et on fait que d'en parler dans les médias comme des terroristes ou des dommages collatéraux, alors que non, on parle pas des dommages collatéraux pour des humains, quoi.
Je la sens touchée et même émue.
Oui. Évidemment, parce que... Bah, en fait, ça aurait pu être nous à leur place, et ça, on l'oublie trop souvent. J'ai manifesté plusieurs fois. Je pense qu'il faudrait brandir le drapeau encore et encore. Gaza, c'est le symbole de la résistance pour moi. Et de la résilience. Je trouve que c'est un peuple extrêmement résilient.
Vous êtes engagé, vous, dans votre génération là-dessus ?
Pourquoi, à ton avis ? Moi et mes amis, oui. Je trouve qu'on ose plus dire les choses que les générations d'avant. La génération Z, on se positionne, on n'a pas peur de dire ce qu'on pense.
Donc, qu'est-ce qu'on dit ?
Que la Palestine vivra et vaincra.
Marie, elle est en train de lire, adossée à un arbre sur le parvis de cet institut du monde arabe. Elle me voit arrêter les gens depuis tout à l'heure et observe le débat que cela peut susciter d'un côté comme de l'autre. Je lui demande à quoi lui fait penser notre mot du jour.
Ok, ça me fait penser à l'affiche qui est juste là, à l'exposition que je compte aller voir là tout de suite, sur les trésors de Gaza.
Elle me confie qu'elle est étudiante en sciences politiques, que les débats sont nombreux autour de cette question entre étudiants, surtout depuis qu'Israël a rompu le cessez-le-feu il y a 3 semaines. Je lui demande à quoi ressemblent leurs échanges.
À nouveau, je trouve que c'est polarisé. Il y a d'un côté les associations pro-Palestine et de l'autre les associations pro-Israël. Et il y a très peu de recherche de dialogue, mais je trouve que c'est une chose générale qu'on observe avec plein d'autres sujets dans la société. Des gens qui se rassemblent avec des drapeaux palestiniens et de l'autre côté, des gens qui se rassemblent avec le drapeau israélien. Et je suis jamais tombée sur une association qui disait « Venez, on s'assoit à une table et on parle ensemble ».
Micro-trottoir délicat sur une question brûlante qui occupe une place particulière dans l'actualité depuis plus d'un an et demi. Cette bande de territoire que Trump veut transformer en Riviera en oubliant simplement 5000 ans d'histoire aujourd'hui en partie enfouie sous les décombres fumants et les morts de Gaza.
Vincent Lemire, j'imagine que dans les rencontres que vous faites, vous observez vous aussi cette colère des jeunes autour du conflit israélo-palestinien, autour de ce qui se passe à Gaza en ce moment.
En ce moment et de plus en plus. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, dans les semaines, peut-être les premiers mois qui ont suivi le 7 octobre, il y avait une espèce de sidération, d'une certaine manière, des deux côtés, et qui faisait que la parole était, enfin j'en suis un peu le témoin, était peut-être pas plus facile, mais c'était très lourd. Mais on avait l'oreille de beaucoup de gens. Et à mesure, effectivement, que la riposte meurtrière israélienne se systématise, à mesure qu'on comprend le but de guerre, hein, qui est de plus en plus explicite et qui est maintenant formulé explicitement, qui est l'expulsion de la population civile de Gaza, les positions se radicalisent, se polarisent de plus en plus.
On entend dans la rue des slogans, des phrases de résistance palestinienne. Est-ce qu'on s'approprie aussi un combat et une histoire qui ne sont pas les nôtres ?
Alors, c'est pas la première fois. J'ai des enfants aussi, jeunes, moins jeunes, des ados, etc. J'entends ce que disait l'adolescente là, qui disait notre génération. Alors d'abord, ils sont plus sensibles à beaucoup de choses. Hein. Ils sont plus sensibles à la crise climatique, ils sont plus sensibles à l'homophobie, à la transphobie. Enfin, je veux dire, ils sont peut-être plus sensibles tout court, en fait. Et puis, on est peut-être des générations plus âgées. On est peut-être un peu plus installés et un peu plus... Donc, ils ont cette colère. Moi, ça ne me choque pas. Hein. Je rappelle quand même toujours de temps en temps des chiffres. Hein. La première intifada, peut-être certains qui nous écoutent s'en souviennent. La première intifada, c'est 5 ans de combat. Et on se souvient quand même des enfants qui lancent des pierres contre des chars et qu'il y a des répressions à balles réelles et tout. Je ne sais pas si vous savez combien ça fait de morts palestiniens, la première intifada, en 5 ans. Bande de Gaza, Jérusalem-Est et toute la Cisjordanie. Ça fait 1400 morts en 5 ans. Bon, bah là, c'est 50 000 morts en 18 mois, seulement la bande de Gaza. Donc c'est vrai qu'on est dans des niveaux de violence qu'on n'avait absolument jamais connus. C'est juste pour dire, encore une fois, les gens qui nous écoutent, qui ne se disent pas, les médias nous survendent un truc, ou c'est... Non, objectivement, comme historien, bah, je peux remonter en arrière, il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas de précédent.
Même l'inverse, que les médias ne montrent pas assez la réalité des massacres à Gaza.
Voilà. Oui, aussi.
Manon. Est-ce que Gaza et plus généralement les territoires palestiniens sont reconnus par la communauté internationale ?
Alors, peut-être que la France s'apprête à faire ce pas. Je l'espère, je le crois. Les signaux se multiplient. Le président Macron était juste à la frontière, à la Riche, à quelques kilomètres de la bande de Gaza hier, avec le président égyptien et le président jordanien. La plupart des pays de la planète reconnaissent la Palestine dans les frontières de 67, c'est-à-dire à l'est de la ligne verte, plus la bande de Gaza. Y compris d'ailleurs toute l'Europe centrale, hein, on dit toujours la Hongrie, la Pologne et tout. Bon, en fait, tous ces États, ils ont reconnu la Palestine en 1988, quand ils faisaient partie du bloc soviétique. Donc, d'une certaine manière, ils peuvent partir et leur... Il y a aussi la Norvège, il y a aussi l'Irlande, il y a aussi l'Espagne récemment. Il va y avoir donc vraisemblablement la France, peut-être le Canada, peut-être d'autres pays. Donc, C'est un mouvement qui est en cours, qui peut paraître complètement décalé avec la réalité. Je prends un parallèle historique qui vaut ce qu'il vaut. Le général de Gaulle, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était reconnu comme représentant souverain de la France et il n'avait pas son territoire. N'empêche, ça l'a aidé à s'organiser, à structurer et à pouvoir un jour récupérer cette souveraineté.
France Inter. Zoom Zoom Zoom.
L'heure tant attendue, surtout aujourd'hui, du Zoom Zoom Test. Ah oui. Cette parenthèse rieuse qui vient réveiller nos zygomatiques, oui. Même lorsque la thématique de l'émission ne s'y prête pas, jouons au Zoom Zoom Test spécial Gaza. C'est en tout cas le quiz que m'avait concocté mon auteur cocaïnomane Gérald Darnaud, qui, ivre de sa notoriété depuis que Télérama lui a consacré un article, fait vraiment n'importe quoi. J'ai donc évidemment décalé le thème du quiz, puisque Donald Trump a réitéré cette semaine son désir d'annexer la bande de Gaza pour la transformer en Côte d'Azur du Moyen-Orient. On va jouer avec les projets d'aménagement urbain les plus cons, qui heureusement ne verront jamais le jour. Et on commence en France en 1936. Cyril vient de fêter son 20e anniversaire au Procope, entouré de ses amis Léon Blum, Aragon et Jean Zay, qui lui remontent le moral car il vient de rompre avec Arletty. À la une des gazettes ce soir-là, une information fait beaucoup parler, un projet fou. D'après vous, Manon Quentin, en quoi consistait le projet de l'architecte André Badevant ? Il voulait piétoniser les quais de Seine pour faire une piste vélocipédique, l'ancêtre de la piste cyclable. Il voulait créer une rampe carrossable pour accéder en voiture au deuxième étage de la Tour Eiffel. Ou il voulait créer une cité flottante sur la Seine qui aurait permis d'accueillir les réfugiés climatiques.
Mais, pardon, on l'a déjà eu cette question.
Ouais, mais 36, non c'est, moi je veux dire c'est...
Moi, c'est... Ah.
Pour vous, c'est une voie, les quais de Seine.
C'est le truc qui me semble plausible.
André Badevant.
Quais de Seine avec les vélos.
Vous apprendrez que dans le Zoom Test, on va chercher toujours les trucs les moins plausibles.
Ouais, les trucs piégeux.
C'était la réponse B. Bravo Manon, belle mémoire. Effectivement,
ah, on est d'accord.
A pu
on
être
recyclée.
Peut-être c'est une question qui date de 2022. Ouais, effectivement.
Sur la Tour Eiffel, donc.
Pratique pour éviter la queue aux ascenseurs. L'architecte André Badevant avait imaginé une rampe en colimaçon, comme dans les parkings souterrains. C'était beau, c'était pratique, ça s'intégrait merveilleusement à l'édifice. Et pourtant, quelque chose a coincé. Mais quoi? On ne le saura jamais. Manon Quentin, attention, top. À défaut de pouvoir monter au deuxième étage de la Tour Eiffel en Ducati Monster en frottant la béquille dans le colimaçon pour subjuguer Manon en extase sur le siège passager.
Formidable.
Quentin, vous pouvez vous consoler en vous disant que vous avez la chance de résider désormais dans le 11e arrondissement. C'est bien, mais avec un petit coup de chance supplémentaire, vous auriez pu faire mieux, vivre dans le 21e arrondissement de Paris. Vous avez bien entendu, ma langue n'a pas fourché, je n'ai pas tapé dans un pochon de la Marianoche. Alors, d'après vous, à quoi a-t-on échappé en 1962 ? À un projet de 21e arrondissement à Bagnolet ? À un projet de 21e arrondissement au-dessus du 20e arrondissement ou un projet de 20e arrondissement, du 21e arrondissement en dessous de la Seine.
C'est.
Oh, c'est allé vite du côté de Quentin. Très très fort, Quentin. Très. Effectivement, réponse C. Ce 21e arrondissement aurait été situé sous la Seine, mais vous allez voir, c'est encore plus con que le film de Thomas Croisière sur Netflix.
Wow. 1900... Faut se lever de bonheur, déjà.
1962. Ouais. L'année des Marmales. Cyril vient de se faire plaquer par Jeanne Moreau. Et l'urbaniste Paul Mémon présente un projet d'aménagement sur 12 niveaux sous la Seine, avec des parkings, des parcs, des magasins, des bureaux et même un abri anti-atomique. Selon lui, 3 millions de personnes auraient pu y vivre. Il aurait peut-être manqué un peu de vitamine D, mais ils auraient pu. Hélas, ce beau projet de souplex fluvial, c'est dur à dire, n'a jamais vu le jour. Mais attention, car le quiz entre maintenant dans une autre dimension. Nous revoilà dans les années 20, mais cette fois en Allemagne. Et je vous présente Hermann Sorgel, un célèbre architecte qui va présenter un projet encore plus fou que la transformation de Gaza en Côte d'Azur bis. Projet qui va avoir un certain retentissement à l'époque. D'après vous, que propose l'imaginatif Hermann ? D'assécher la Méditerranée pour réunir l'Europe et l'Afrique ? De bétonner la Méditerranée pour réunir l'Europe et l'Afrique ? Ou d'interdire à Tino Rossi de chanter Méditerranée ?
Mais...
Ah, parce que bétonner, ce serait impossible. Ah, mais ça a déjà été asséché à une époque, c'est pour ça.
Oh la vache, vous allez loin, Quentin.
Ouais, mais...
Et n'allez pas trop loin, c'est la réponse.
Ah.
Bonne réponse, Quentin. Pour Hermann, la Méditerranée était en trop, tout simplement. Une flaque inutile entre l'Europe et l'Afrique, l'Afrique colonisée, bien sûr, en étant 1920. Son idée, donc, construire une série de barrages hydroélectriques géants sur les détroits de Gibraltar, du Bosphore, de Sicile, sans oublier l'estuaire du Nil, dans le but, donc, d'assécher la Méditerranée et réunir ainsi l'Europe et l'Afrique dans une seule entité géographique et politique qu'il avait baptisée, c'est le nom de son livre, Altantropa.
Mais comme... il aurait attendu que ça s'évapore.
Ah, non, non, il aurait séché avec les barrages hydroélectriques, vous n'avez rien écouté, Quentin.
Mais ça veut dire qu'il aurait pompé.
Il aurait pompé,
oh,
pompé.
D'accord.
Comme les Shadok. Voilà. Enfin, c'est un projet plus réaliste, mais un peu con aussi. Vous le savez, la ville de New York est particulièrement menacée par la montée des eaux liées au réchauffement climatique, ce canular des Chinois, qui devrait savoir pourtant que les plus courtes sont les meilleures. D'après vous, avec quels matériaux la ville de New York compte-t-elle bâtir des digues pour éviter la submersion ? Avec du béton, parce que le béton a fait ses preuves ? Avec des algues, parce que les algues, c'est pas cher ? Ou avec des huîtres, parce que les huîtres, c'est bon ?
C.
B.
Bon.
Bah donc, comment voulez-vous qu'on construise une...
Je sais
vous allez
pas.
Protéger Manhattan avec des huîtres.
C'est ça.
C'est la bonne réponse, hein, oui. Le projet s'appelle le Billion Oyster Project, une digue en huîtres, car, et ça, seul le Zoom Zoom Test pouvait l'apprendre, vous l'apprendre, New York fut jadis la capitale mondiale de l'huître. L'idée est donc d'en cultiver un milliard, car l'huître, en plus d'être délicieuse, avec un trait de citron et un chef bien sec, est aussi un formidable rempart aux inondations. Victoire de Manon Mariani, effectivement.
Okay. Ouais, c'est...
Et vous applaudissez vous-même.
Évidemment,
oui, bah, comme toujours.
C'est comme tous les jours, puisqu'elle gagne tous les jours.
C'est l'excitation. Pas du tout, vous avez gagné hier, Quentin. Vous n'avez aucune mémoire.
Mais oui, mais vous gagnez beaucoup. Hein.
Ouais, on zoom sur Gaza, les amis. Aujourd'hui, avec l'historien Vincent Lemire. Vincent, je reviens sur ce que disait tout à l'heure l'une de ses étudiantes dans le micro-trottoir. Elle dit, aujourd'hui, notre génération, la Gen Z, elle est très, très passionnée autour de ces sujets, elle s'intéresse à ça, elle défend ses idées, mais il y a d'un côté les pro-palestiniens, de l'autre les pro-israéliens, et elle dit, jamais on se met autour d'une table pour essayer de trouver, ou de discuter en tout cas ensemble. Est-ce que ça, c'est pas symptomatique de ce qui se passe dans cette région ?
Ouais, on n'a pas envie de discuter ensemble, enfin en tout cas ces positions polarisées. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que le bouquin, par exemple, qu'on a fait avec le collègue et ami Thomas Negaroff, Israël-Palestine, anatomie d'un conflit, d'abord, c'était un podcast. Je crois qu'il y a eu plus de 2 millions de vues, d'écoutes. Et notamment les plus jeunes, les ados. Je ne sais pas comment les gens de Radio France savent qui écoutent les podcasts, mais si, on doit être plus ou moins
profilés,
on sait tout, voilà, c'est ça. Oui, mais si, c'est logique, on a un compte, machin truc. Bon, bref. Plein de jeunes écoutaient ce podcast, et c'est un podcast a priori, enfin, qui est ouvert, qui est... Et puis ensuite, le livre fonctionne bien. Ce que je veux dire, c'est que je pense que tout le monde a besoin en ce moment de se documenter, de s'informer, pas forcément envie de parler avec, on va dire, l'adversaire, parce que souvent, en fait, ça tourne mal. Et moi, je vais vous dire, je pense que c'est peut-être de bons réflexes. En ce moment, il vaut mieux lire, bouquiner, s'informer, etc. Et puis, peut-être pas trop parler dans les dîners ou en fin de dîner, parce que c'est pas la peine, quoi. On va s'engueuler, on va se dire des choses qu'on va regretter, et voilà. Donc, par exemple, Gaza, s'informer sur Gaza, comme on est en train de le faire aujourd'hui, alors qu'on n'en sait pas grand-chose. Allez voir cette expo, allez voir, moi j'encourage tous les gens qui nous écoutent, il y a un site auquel je participe qui s'appelle Gaza Histoire. Tape sur Google Gaza Histoire Hypothèse, parce que c'est sur une plateforme qui s'appelle Hypothèse. Et ils vont apprendre plein de choses sur le patrimoine de Gaza, mais pas seulement les mosaïques byzantines, mais les cinémas qu'il y avait à Gaza, mais les universités, les librairies, enfin, voilà, la vie à Gaza.
Mais les amis sont très cultivés, vous y êtes très, en tout cas, des niveaux
voilà, diplômes. On sait que les Palestiniens sont, dans tout le monde arabe, le peuple le plus diplômé, et parmi les Palestiniens, les Gazaouis, encore plus, les universités regorgent d'étudiantes, les départements de français, enfin, les médecins, les chirurgiens, etc. C'est une société extrêmement, extrêmement cultivée, diplômée, polyglotte.
Vous parliez d'aller voir l'expo à l'Institut du Monde Arabe, Trésor Sauvé de Gaza. Est-ce qu'il existe un lien d'appartenance à une culture palestinienne commune entre la bande de Gaza et la Cisjordanie ?
Alors oui, parce que 80% des habitants de Gaza sont des descendants, sont réfugiés eux-mêmes ou descendants de réfugiés de partout en Palestine. Donc ils sont hyper connectés en fait à la Palestine. Dans chaque famille de Gaza, on sait d'où on vient en Palestine. Si on vient d'Hébron, si on vient de Jérusalem, si on vient d'Ashkelon, d'Ashdod ou de Beersheba. Parfois on a la clé de l'ancienne maison, de la maison ancestrale qui est accrochée au mur. Souvent on porte un nom. On n'a qu'à juste dire son nom, ou même il y a même des accents à Gaza qui ont à voir avec la région d'origine. Donc Gaza, c'est un peu une Palestine miniature, quoi. Voilà, c'est une Palestine miniature, et c'est pour ça que c'est le pivot de la résistance palestinienne aussi.
Selon un rapport récent des Nations Unies, la guerre actuelle a placé l'économie de Gaza dans un état de ruine totale. Ce rapport estime même qu'en cas de cessez-le-feu immédiat et d'un retour à la tendance observée entre 2007 et 2022, une croissance de 0,4%, il faudrait 350 ans pour que Gaza retrouve son PIB de 2022. Comment cette région peut s'en sortir si on n'agit pas, si on ne les aide pas ?
Impossible n'est pas Gazaoui. Voilà la punchline du jour. Ce que je veux dire, c'est que quand on a... Enfin, moi, quand l'énergie des gens de Gaza... Mais de toute façon, on la voit déjà aujourd'hui. Quelle société résisterait au sens, résisterait à être ballottée comme ça, trois fois, quatre fois, pas de nourriture, pas d'eau, etc. Le nombre de morts, pas de soins. C'est pas une société résiliente, j'aime pas le terme pour Gaza. C'est même pas une société résistante, pour moi, c'est une résistance faite société. Gaza.
C'est la résistance incarnée.
C'est de la résistance qui qui construit du social. Et donc, c'est pour ça qu'on voit que cette guerre est sans issue. C'est la résistance et leur mode d'être, en fait.
Un mot sur ce mot qu'on entend beaucoup chez les jeunes, notamment le micro-trottoir, ce mot de génocide. Amos Goldberg, qui est un historien israélien, il dit ce qui se passe à Gaza est un génocide, car Gaza n'existe plus. Face à l'ampleur des massacres et des destructions perpétrées par l'armée israélienne à Gaza, cet historien, spécialiste de la Shoah d'ailleurs, estime, dans un entretien au Monde assez récemment, que son pays a réagi de manière criminelle au massacre du 7 octobre. Est-ce que ça légitime qu'on utilise ce mot de génocide ?
Alors, moi, c'est pas du tout un mot que je m'interdis. Y a des journalistes qui me demandent, parfois, dans le couloir, ça peut être votre cas, hein, mais s'ils ont le droit d'utiliser le mot génocide dans une question.
Moi, j'ai pas peur de poser la question, parce que c'est une question qui se pose dans la société.
C'est super, mais oui, bien sûr, posez-moi la question. Et voilà, moi, je rappelle toujours la Convention de 1948 sur la prévention du génocide. Elle a été co-rédigée et signée par Israël, donc ils sont partie prenante. Ils ont décidé de considérer que le génocide, tel que défini dans cette convention, c'était une définition très extensive, donc c'est pas du tout égal Shoah. En fait, ça n'a rien à voir. Et les Israéliens, justement, se sont dit, parce qu'il y a une question de continuum, quand on fait ça, puis qu'on fait ça, puis qu'on déplace des populations, ça peut très très mal finir. Donc c'est ça. Et puis surtout, la Convention de 48, c'est une convention sur la répression, mais surtout la prévention du génocide. Je m'explique, ça veut dire que le tribunal pénal international, la Cour internationale de justice, elle doit intervenir avant que le crime de génocide soit commis. C'est le seul crime au monde, c'est un peu Minority Report, en fait. On considère que c'est trop grave pour qu'on attende qu'il soit commis,
il faut l'anticiper,
pour que le juge intervienne. Là, on doit intervenir s'il y a un risque plausible de... Donc, à minima, quand on a des ministres de la Défense et même un Premier ministre qui dit « on va évacuer les 2 millions d'habitants », le déplacement massif de population, c'est dans la définition extensive du génocide. Donc voilà. Alors pour le coup, quand moi j'explique ça, y compris à des gens qui sont très très pro-israéliens ou quoi, ils disent « ah ouais, je comprends mieux ». Voilà. La pédagogie, ça sert quand même. C'est utile.
Vous écoutez France Inter, il est 16h47. L'heure de découvrir maintenant l'autre personne à suivre.
Je vous présente Rami Abou Jamous. Il a 46 ans, il est palestinien et il est correspondant de guerre pour des médias du monde entier. Rami Abou Jamous passe sa jeunesse à Gaza avant de partir en France, entamer des études d'ingénieur. Il apprend la langue et revient dans son pays après la mort de son père. C'est après l'attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre 2023, que Rami Abou Jamous se reconvertit en fixeur pour les journalistes étrangers. Ce métier qui consiste à les accompagner quand ils viennent dans le pays pour qu'ils soient en sécurité. Un fixeur, c'est aussi bien un guide qu'un interprète et même parfois un journaliste lui-même. C'est donc le cas de Rami Abou Jamous à Gaza. Il collabore avec plusieurs médias comme Le Monde ou Radio France et puis il décide aussi de se lancer en solo pour documenter la vie gazaouie. C'est pour ça qu'il crée un groupe WhatsApp appelé Gazavie où il décrit ce qu'il se passe dans la ville. Plus de 180 journalistes suivent son groupe qui est devenu essentiel pour avoir des informations de l'intérieur. Je rappelle que l'accès à la bande de Gaza est interdit à la presse étrangère. Rami Abou Jamous partage les communiqués de presse d'Israël, de la Palestine, du Hamas. Il poste des photos et des vidéos parfois très dures de la réalité du conflit là-bas. Des corps, des enfants sans parents, des immeubles détruits. Il commence ses messages par « Bonjour à tous, je suis toujours vivant ». Il tient aussi un blog sur le site d'actualité spécialisé dans le Moyen-Orient, Orient 21, pour lequel il a obtenu en octobre dernier le prestigieux prix Bayeux des correspondants de guerre. Il en a fait un livre, le journal de bord de Gaza. Il y raconte par exemple la pénurie de shampoing qui touche le pays et le fait que beaucoup de Gazaouis sont obligés de se raser les cheveux. Il parle aussi beaucoup de son fils Walid, 3 ans. Il a d'ailleurs écrit un livre sorti en mars dernier à ce sujet, Gazavie, une déclaration d'amour à son fils où il raconte comment il essaie de préserver l'innocence de son enfant en transformant les horreurs du conflit en éléments rassurant comme quand il fait passer les bombardements pour des feux d'artifice. Rami Abou Jamous risque sa vie pour informer aujourd'hui. Il a déménagé plusieurs fois à cause des bombardements. Il a même dû quitter Gaza. Aujourd'hui, il a peur de ce qu'il va se passer après notamment les annonces de Donald Trump. Il a dit au micro de Sonia De Villers que le président américain veut pousser les gens à quitter Gaza et que cette nouvelle phase de guerre allait être très violente. Moi, je ne veux pas partir. Je vais rester jusqu'à la dernière minute.
Merci Manon. Cet homme qui fait passer les bombardements pour des feux d'artifice, ça rappelle La vie est belle de Roberto Benigni.
C'est vrai.
C'est une déclaration d'amour à la vie, en fait. Mais les habitants de Gaza, ils veulent qu'on parle de leur vie aussi. Mmh. Et un autre bouquin que j'ai envie de conseiller, Amour, sexe et terre promise, d'une amie journaliste. C'est une bande dessinée et qui raconte en fait le conflit israélo-palestinien, côté israélien, en Cisjordanie, mais aussi à Gaza, par l'amour et le sexe. Comment on fait l'amour, avec qui, comment, voilà.
On n'en dit pas trop, ça sera une autre émission. Voilà, on fera une émission Zoom Zoom Zen là-dessus, c'est sûr.
Je vous la conseille.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
Pour lui, la bande de Gaza n'aura historiquement connu qu'une seule période de prospérité, un seul âge d'or, les croisades. Si Louis IX avait été un peu insisté et qu'on avait évangélisé tout ça, ça serait moins le bordel aujourd'hui, nous disait hors antenne Pierre Courade, notre rédacteur en chef adjoint jésuite, grand nostalgique de la 6e croisade. Bonjour Pierre.
Bon. Oui, je sais pas quelle image auront les auditeurs, hein, mais bon.
Ils ont déjà assez précis de vous, Pierre. Hein. Comme chaque après-midi, vous nous résumez tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono.
Et aujourd'hui, on a zoomé sur Gaza, minuscule territoire aux confins de la Méditerranée, cerné par l'Égypte et Israël, grand comme à peine trois fois la superficie de Paris, c'est pourtant cette bande de terre qui cristallise la plupart des tensions de la planète. On a eu besoin des lumières de l'historien Vincent Lemire, spécialiste du Proche-Orient, pour nous expliquer d'où vient ce territoire qui n'est ni un État ni même un proto-État qui échappe à l'autorité palestinienne. Ses frontières actuelles ont été définies lors du cessez-le-feu de 1949, mais si Gaza existe en tant que territoire depuis le XXe siècle, son histoire est-elle beaucoup plus ancienne? Vincent Lemire nous a raconté que Gaza a toujours été un lieu d'échange, un carrefour entre la Turquie et l'Afrique, entre l'Europe et la péninsule arabique, une oasis pour les caravanes, un jardin d'Éden, si bien que des vestiges grecs, mésopotamiens, égyptiens ou encore byzantins ont été découverts dans la bande de Gaza. On a aussi appris que le terme même de palestinien provenait de Gaza. Il est issu des Philistins, un peuple de la mer qui s'est installé dans la région plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. Un peuple ennemi des Hébreux, Goliath le Philistin combat David l'Hébreu, nous a rappelé Vincent Lemire. Confrontation multiséculaire, Gaza est aujourd'hui un champ de ruines, mêlant dans ses gravats une histoire plusieurs fois millénaire et des vies, autant dire une part de notre humanité, ou comme disait Vincent Lemire qui citait un journaliste d'AFP, Gaza est le simple symbole de nos échecs.
Premier petit carnet sans vanne sur la Marianoche. Bien joué, mon cher Pierre. Vous le savez, chez Zoom Zoom Zen, on aime le contradictoire. Nous avons donc invité Vincent Lemire, historien spécialiste du conflit israélo-palestinien, mais aussi une personne qui n'y connaît rien. Tania, c'est à vous.
Merci, vous ne pouviez pas me présenter mieux que ça, Mathieu. J'ai lu votre documentation envoyée, et qu'ai-je lu ? D'une part, le mot Palestine n'est pas une invention des Britanniques au XXe siècle. D'autre part, il désigne une région de la Syrie, celle qui se situe entre la Phénicie et l'Égypte, dont Gaza constitue la ville principale. Lorsque Hérodote l'a décrit, il emprunte à l'évidence aux usages locaux, alors que plusieurs livres de la Bible qui mentionnent la région n'ont pas encore été rédigés. Eh bien, ça laisse songeur. Pourquoi ? Parce que c'est pas clair. Et moi, j'aime pas le doute, donc je vérifie. En gros, Hérodote a écrit Palestine pour décrire cette partie de la Terre 5 siècles avant Jésus-Christ, donc le terme Palestine ne vient pas des Britanniques, c'est quand même beaucoup plus simple comme ça, il me semble. Donc s'ils avaient foutu le d'autre part avant le d'une part, déjà ça aurait été plus clair. D'une part les Britanniques, d'autre part Hérodote, non, en fait. D'abord Hérodote, et donc grâce à cet écrit, on a saisi que le terme Palestine existait bien avant, donc ça peut pas venir des Britanniques. Et d'ailleurs, ça serait pas d'autre part, mais donc, bref. Qu'est-ce que je me dis à ce moment-là ? Hérodote, c'est vieux, mais pourquoi ne pas aller encore plus loin dans le temps ? Qu'en était-il de Gaza au temps de la Pangée. C'était il y a 300 millions d'années. La région qui deviendra le Moyen-Orient est encore soudée à l'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Sud, climat tropical, présence de dinosaures. Je vérifie tout de même si Gaza était déjà là. Pourquoi ? Parce que plaque tectonique. Je demande à Internet s'il y a eu des recherches au carbone 14 pour dater les sédiments. En même temps, je me dis non, le carbone 14 ne peut pas remonter aussi loin. Il me semble que c'est 750 000 ans. Arf ! À côté de la plaque, c'est 50 000 ans. En revanche, des recherches géologiques montrent que Gaza existait. Ok, maintenant je suis certaine qu'il y a un outil de datation qui remonte à 750 000 ans, mais lequel, j'ai oublié, je crois qu'il y a uranium dedans. Donc je recherche, il y en a trois. Potassium argon, si c'est de la roche, ah. Ensuite, la résonance de spin électronique ou thermoluminescence, si c'est de l'outil ou du ciment chauffé, ok. Ou encore l'uranium thorium, voilà, il me semblait, si c'est de la matière calcaire. Effectivement, Gaza n'est pas placée sur une zone de subduction, mais une faille transformante, où les plaques glissent latéralement l'une contre l'autre. Ce qui signifie que si j'avais répondu à cette question en premier, j'aurais pu éviter de googler carbone 14 plongée Gaza. Parenthèse, c'est extrêmement agaçant parce que j'ai lu toute une documentation sur la datation il y a 2-3 ans parce que ça me passionne, j'avais oublié des infos. Moi je suis une passionnée de géologie, ne me lancez pas sur les roches trop tard parce qu'on y arrive. Sur la dislocation de la Pangée, il y a environ 200 millions d'années avec la formation de deux continents, la Laurasia et le Gondwana. Gaza est tout sur le Gondwana. Le saviez-vous ? Non. Revenons sur un point essentiel, les dinosaures, oui, mais lesquels ? Eh bien on ne sait pas parce qu'il n'y a pas eu de fouilles paléontologiques d'envergure à cause des conflits et du manque de stabilité. On peut faire des suppositions par rapport aux ossements retrouvés dans les pays voisins, mais on n'est pas là pour parler de suppositions.
Mais j'avais supposé, moi, que vous alliez parler du conflit, Tania.
Eh bien, supposé de cesser, Mathieu. voilà, vous en parlez depuis une heure. À un moment, on a tous besoin de souffler. Merci. On avance encore dans le temps. Formation du Levant avec les côtes qui se dessinent entre 100 et 10 millions d'années. Formation des 5 continents. Ensuite, flou artistique parce qu'on n'a pas de trace écrite. Il n'y avait personne jusqu'à ce que quelqu'un arrive il y a 2 millions d'années. Et c'est pas par trace écrite qu'on le sait, mais par ossement. Les hominidés passaient probablement par là, puisque c'était un couloir de migration entre l'Afrique et l'Eurasie. Ce qui fait que Gaza était une route stratégique avant même d'être Gaza. Pensez-vous que j'ai lu ça dans la documentation ? Aucunement. Ensuite, naissance de la ville en 3000 avant Jésus-Christ, avec les Cananéens qui y fondent une cité, et puis 5000 ans de conquête incessante jusqu'à 1948, cauchemar géopolitique.
Et là-dessus, qu'est-ce que vous avez à nous dire ?
À moi ? Non, je croyais que vous parliez à Vincent Lemire, parce que alors clairement, là, c'est pas moi qu'il faut... Non, c'est pas moi.
Merci beaucoup, Tania Dutel. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Merci, Vincent Lemire, d'être venu nous parler de Gaza dans une émission d'Infotainment. Je rappelle votre BD best-seller Histoire de Jérusalem, le livre avec Thomas Negarov, Israël-Palestine, Anatomie d'un conflit, celui de Jean-Pierre Filiou, évidemment, la référence Histoire de Gaza.
Zoom Zoom Zen.